I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. C'est le seul truc, le seul podcast que vous avez besoin d'écouter. Les autres, vous pouvez le faire pour le plaisir. Mais ce podcast, c'est le seul que vous avez besoin d'écouter pour savoir tout ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo, pour passer un excellent moment en apprenant tout ce qui est important et en entendant parler quand même des jeux sympathiques du moment. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 177, nous sommes en mars 2021 et cet épisode vous est présenté par les Patriotes qui financent l'émission parce qu'ils apprécient le contenu et qu'ils aiment le financer et en fait contribuer au contenu qu'ils apprécient. Ce sont des gens bien, oui monsieur, oui madame, et ces Patriotes spécifiquement aujourd'hui sont Dwayne Ed, Wayne M, Hugh Pike, Nanos, Fabien Brocard, Raphaël Lima et le producteur Johan Journet, que certaines personnes appellent Journe et dont, pour lesquelles ces personnes se trompent. C'est Journée, messieurs, dames. Merci à toi, Johan, et merci à tous ceux qui soutiennent le rendez-vous jeu sur patreon.com. Bonjour Esca et bonjour Julien. On a Escarina d'un côté. Comment ça va? T'es en forme?
Bah écoute, oui, la grande forme, et toi, Patrick?
Je suis en... C'est pas moyenne forme, parce que c'est genre, c'est pas... En fait, il y a deux niveaux. Bon, tu m'as posé la question, Esca, donc je me lance dans une explication. Il y a deux niveaux de forme dans ma vie. Le niveau de forme normal, de tous les jours, de tout le temps, et le niveau de forme quand je fais une émission. Et mon niveau de forme quand je fais une émission est toujours deux points au-dessus de mon niveau de forme normal.
C'est l'adrénaline, ça.
Exactement. On pense que c'est facile de faire un podcast, mais non, il faut plein d'énergie, même quand on n'a pas d'énergie. The show must go on. Et bon, en fait, je me demande si c'est pas l'angoisse de savoir que mon deuxième enfant arrive bientôt. Vous finirez par le savoir, hein, j'en parle à chaque épisode maintenant. Mais mon deuxième enfant arrive bientôt, et rien que ça, ça m'angoisse. Tu sais, c'est... Comment ça va se passer, tout ça?
Tout va bien se passer. On va te soutenir, Patrick.
Merci. Et je sais que toi, Esca, tu étais très surprise de m'entendre dire que c'était compliqué les premiers mois avec mon fils. Et parce que toi, ça se passe merveilleusement bien avec ta fille depuis 6 mois maintenant, c'est ça?
Ouais, c'est ça, elle vient de fêter ses 6 mois. Bah écoute, oui, j'ai... Alors, je prétends pas du tout que ça... chez tout le monde parce que ça se passe bien chez moi, mais je savais pas que ça avait été difficile à ce point-là chez toi, donc j'étais curieuse, faudra qu'on en parle,
qui
a été compliqué. Mais ouais, moi j'ai de la chance, j'ai un bébé qui est en bonne santé, je pense que ça va être bien, qui est de bonne composition. Alors tous les jours sont pas roses, mes nuits sont loin d'être complètes, mais en vrai ça se passe super, donc j'ai pas à me plaindre en fait.
Oui, je précise quand même pour que les gens s'inquiètent pas, mon fils était en excellente santé, donc c'était pas des problèmes majeurs, c'est juste qu'il pleurait énormément et il était bon. Il est compliqué, le petit, enfin compliqué, il a une bonne volonté comme je le dis souvent, et c'est un piège, Esca, sache-le, parce que ça se passe très bien avec le premier, tu te dis ah oh, mais super, c'est facile en fait, et tu fais le deuxième assez vite, et c'est là que tu fais clac, tu vois, sur le derrière de la tête, et parce que le deuxième est plus facile. Donc en fait, moi j'espère que le premier était dur, que le deuxième sera facile, mais...
Ah bah, ce serait la belle surprise.
j'espère, mais effectivement, important de le dire quand même, c'était pas la santé qui était un problème, Dieu merci, il était en parfaite santé, heureusement.
Bon... Il était juste chiant.
un tout petit peu. De l'autre côté, on a Julien. Comment ça va, Julien? Est-ce que tu es en forme, Julien Bertozzi?
C'est ça, tout à fait. Oui, en forme. Je suis super content d'être avec vous. Merci de m'inviter. Alors moi, la pression, c'est justement de participer au rendez-vous jeu. Donc là, je suis en plein dedans.
Bah écoute, on va faire en sorte que ça se passe bien avec SK, on va te mettre à l'aise. Pour préciser aux auditeurs, tu es un développeur de jeux vidéo et comme on en discutait un petit peu avant de lancer l'émission, je t'ai qualifié comme la plus petite unité possible de développement parce que tu es un développeur qui fait des jeux tout seul. Et tu fais ça même pas à temps plein, mais en parallèle de ton travail. Donc c'est vraiment, je pense, et mais par contre, c'est des vrais jeux, c'est des jeux sur mobile, dont le dernier est fort sympathique, qui s'appelle Twaddle Paddle. On en parlera tout à l'heure, hein. Mais je suis content d'avoir cette perspective dans l'émission. Donc merci d'avoir accepté.
Bah écoute, avec plaisir, avec plaisir. J'ai pas eu la même expérience que toi niveau petit loup, ouais. Le mien m'a permis justement de développer pas mal parce que à partir d'un mois, il faisait ses nuits.
Salaud, sors de cette émission tout de suite.
Bon allez, parlons un petit peu jeux vidéo quand même. La plus grosse news de la semaine, c'est certainement la validation. Enfin, c'est une news qui a des conséquences qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire que les autorités de concurrence ont validé le rachat de Bethesda, ou plutôt de ZeniMax, par Microsoft. Et donc, il y a eu toute une série de communications qui officialisent le fait que ZeniMax rejoint Bethesda, rejoint Xbox, et il n'y a pas encore les effets immédiats. Il risque d'y avoir une petite vidéo ou en tout cas une annonce ou quelque chose ce soir au moment où on enregistre qui va donner les implications directes du côté de Microsoft de cette décision. Mais ils ont déjà publié un petit article disant en gros « Waouh, on est super contents que Bethesda rejoigne l'équipe, ça y est, c'est fait ». Ils précisent quelques petits trucs. Il mentionne le fait que certains jeux de Bethesda ou de ZeniMax seront exclusifs au Xbox et au PC. Donc, c'est un truc qu'ils avaient déjà dit à demi-mot, en fait. Il y aura des jeux, sans doute, ils se ménagent en tout cas la possibilité, il y aura des jeux développés par les équipes de Bethesda qui seront exclusifs à la Xbox, ce qui n'est pas si surprenant que ça, ce qui est même normal. Et à l'inverse, il y aura certains jeux qui seront développés par Bethesda, qui seront disponibles sans doute sur toutes les plateformes. Ce qui, là, est un petit peu surprenant, parce que Bethesda devient un développeur de première partie, enfin un développeur Xbox. Et donc, ils vont sans doute, d'après ce qu'ils disent, développer des jeux qui seront disponibles ailleurs sur PlayStation. En gros, c'est celle-là qui est le gros point d'interrogation, hein, puisque sur PC, ils y seront. Sur Xbox, évidemment, ils y seront. Sur PlayStation, c'est là que c'est un petit peu plus un point d'interrogation. Et sur Nintendo, il y a déjà eu des jeux Microsoft qui sont arrivés sur Nintendo, avec notamment Ori, en plus de Minecraft. Et évidemment, ça on le savait déjà, mais Deathloop et Ghostwire Tokyo, qui étaient des jeux signés comme exclusifs sur PlayStation avant le rachat de ZeniMax par Microsoft, honorent leur contrat, c'est évident, ils seront exclusifs au moins pendant un temps, enfin selon les termes du contrat qu'on ne connaît pas, sur la PlayStation. Donc c'est un gros événement, enfin, c'est la confirmation d'un truc dont on savait déjà qu'il allait arriver. C'est quand même très, très gros. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose de cette confirmation, qui n'est qu'une confirmation, comme je disais. C'est quand même un grand moment pour l'ensemble de l'industrie, quoi.
Bah ouais, Bethesda, c'est quand même pas n'importe quel studio. Moi, du coup, je suis très curieuse de voir la course aux exclus que ça va potentiellement relancer, parce que c'était un petit peu le reproche qui était fait à Xbox de pas forcément avoir des exclus aussi sexy que celle de la PlayStation. Donc, du coup, bah maintenant qu'ils ont Bethesda dans leur camp, ça risque de devenir intéressant.
C'est exactement cette lacune qu'ils essayent de combler avec le rachat de Bethesda. D'ailleurs, ils ont dit que ce n'était pas fini, les rachats, donc on peut s'attendre à d'autres choses en plus. Mais oui, c'est énorme, énorme. Et les grosses licences de Bethesda existantes sont les choses connues et c'est le gros moteur. Mais il y a aussi une expertise et un savoir-faire qui va mener à d'autres choses. On attend notamment Starfield qui arrivera. Normalement, c'est le prochain gros jeu qui est un jeu de rôle comme on l'imagine chez Bethesda, mais dans l'espace, ce qu'ils n'avaient pas encore fait. Ils étaient plutôt dans l'Heroic Fantasy. Et on n'en a rien vu. Pareil pour Elder Scrolls 6, on n'en a rien vu. Mais donc, ça fait des choses à attendre. Il ne faut pas oublier non plus que id Software, Arkane et tous ces studios-là font partie de ZeniMax, qui était une société qui avait été créée en gros par les créateurs de Bethesda pour englober plus de studios. Et donc, tous ces studios-là font partie désormais de Xbox également. On pense à Doom, on pense à Wolfenstein, on pense à Prey, on pense à Dishonored, etc., etc.
Donc, c'est très très bien joué en tout cas, ça c'est sûr.
Ouais.
Très bon choix.
Alors, personnellement, je suis très joueur PC et donc je vais me faire un petit peu l'avocat du joueur PC. Mais j'ai tous les jeux que vous avez cités et les jeux qui sont ici généralement présentés, pour moi ça m'a l'air plus justement d'être la cible du joueur PC. Donc je me demandais si ce sont des jeux qui fonctionnent bien sur console, est-ce que ce sont des exclus qui justement feraient un peu changer les joueurs console de camp, je sais pas.
C'est une question absolument intéressante, effectivement. C'est traditionnellement des jeux qui, on va dire, qui ne sont pas consoles natifs. C'est plutôt des jeux PC natifs, c'est vrai. Mais ils sont arrivés sur console et ils sont très bien vendus sur console. Il faut voir qu'un jeu comme Skyrim, Elder Scrolls V, j'ai pas les chiffres ici, mais... je peux tout à fait imaginer qu'il se soit mieux vendu sur console que sur PC. Il y a eu une grosse période où effectivement ce type de jeu qui venait du PC se vendait extrêmement bien sur console aussi. Donc je pense que ça concerne un petit peu les deux, mais c'est vrai qu'ils sont pas natifs console à la base. Il y a encore une petite distinction qui se fait là, c'est vrai.
Après, il reste le Game Pass PC. Ils pourraient se dire qu'il y a des exclus qui sont PC only. Bon, après, c'est pas trop dans leur philosophie, mais...
Ceux-là, il n'y a pas de raison. Bien sûr, il y aura des jeux, s'ils ne sont développés que sur PC, les amener que sur PC. Il y en a dans le Game Pass, mais il n'y a pas de raison de se priver. L'occurrence, je pense que tous les jeux seront sur les deux plateformes. Enfin, tous. Une grande partie des jeux, une majorité des jeux. Et d'ailleurs, ça nous amène à cette question. Est-ce que... vous avez on en saura sans doute plus ce soir, mais est-ce que vous avez une prédiction sur les effets immédiats de la validation du deal? Est-ce que vous pouvez prédire ce que ça va vouloir dire pour Microsoft, genre dans les semaines à venir ou dans les jours à venir?
Déjà, l'action va sûrement monter.
Oui, ça, je sais pas parce que, encore que, j'allais dire, je sais pas parce qu'on savait déjà que ça allait arriver, mais la validation, ça fait sans doute monter l'action, t'as raison. Enfin, ouais, l'action de Microsoft, un tout petit peu, je sais pas si ça change la valeur de la société dans son ensemble énormément, mais peut-être.
Alors, est-ce que ça va permettre de vendre davantage de Xbox? Je ne sais pas s'il y a toujours des problèmes de stock là sur les ventes de Xbox.
Surtout sur Microsoft et Sony ont des... Enfin, pas des problèmes, mais ils vendent tout ce qu'ils fabriquent, quoi. Donc, je ne pense pas qu'ils pourront en vendre plus que ce qu'ils fabriquent déjà.
Bon, donc, augmenter la hype de ce côté-là. Puis après, je ne sais pas, peut-être qu'ils s'apprêtent à annoncer le rachat d'autres studios aussi.
Moi, je pense en fait que ce qu'ils vont annoncer ce soir, c'est que tous les jeux ZeniMax sont dans le Game Pass à effet quasi immédiat. Enfin, je ne sais pas quand ça arrivera, mais ils vont dire ça y est, tous les jeux sont dans le Game Pass. Et du coup, le Game Pass, qui était déjà incontournable, va effectivement devenir encore plus incontournable que ce qu'on avait à l'esprit.
Ce serait énorme.
Disons que c'est inévitable. La question, c'est quand ? Parce que, évidemment, comme on le dit souvent, ils n'ont pas racheté Bethesda 7 milliards de dollars, ce qui est une somme monumentale, 7,2 je crois, pour ne pas mettre leur jeu dans le Game Pass. Donc, c'est le Game Pass est transformé, transfiguré, métamorphosé. De là qu'il était un joli papillon, il devient en fait, Mothra, tu vois.
Un avion de chasse.
Un quoi ?
Un avion de chasse.
Ouais, c'est ça, exactement. Le Game Pass est désormais un avion de chasse, c'est un Tomcat F-14 qui va plus vite que la lumière, ou en tout cas que le son. C'est clair que là, tout à coup, la proposition du Game Pass, qui était déjà complètement inévitable, devient... Enfin, je ne sais pas comment la décrire, mais imaginez-vous, tous les jeux Bethesda, et comme je le rappelle, ce n'est pas juste les Fallout, les Skyrim, c'est aussi tous les Doom. Enfin, les Doom, je crois qu'ils y étaient déjà, mais les trucs comme les Doom, les Wolfenstein, tout ça va y être dans le Game Pass direct.
Mais est-ce qu'ils ne vont pas en profiter pour retenter d'augmenter les prix ?
Je crois pas. Moi, je crois qu'ils sont déjà à leur somme max aujourd'hui. Je pense qu'ils sont en conquête de marché. S'il y a des augmentations de prix qui arrivent, elles arriveront dans 2, 3, 4 ans quand ils seront en position de force, s'ils réussissent à arriver en position de force. Là, ils sont en conquête. Donc, je crois pas que ça va augmenter les prix. Je crois pas. On verra.
La sortie d'un MMO, ça pourrait être une bonne occasion d'augmenter les prix si tu intègres l'abonnement dedans.
C'est possible. Je me demande s'il y a vraiment une logique à l'augmentation. Parce que si tu as 300 jeux dans le Game Pass et tu rajoutes juste un MMO, est-ce que tu vas augmenter le prix ? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est proportionnellement une trop petite, un trop petit élément du Game Pass. Par contre, on nous dit dans la chatroom, peut-être un teaser pour Starfield. Peut-être qu'il se réserverait pour l'annonce de la fusion, enfin de l'acquisition totale et de l'intégration de tous les jeux, effectivement, une petite annonce de la part de Bethesda qui a pas montré quoi que ce soit depuis très longtemps, et notamment sur Starfield. Il serait pas impossible, effectivement, que ça soit une possibilité qu'il montre un petit peu de Starfield, un minimum quoi, pour faire monter un petit peu la hype et qu'on parle du fait que tous les jeux sont inclus. Donc, bon, à voir.
En tout cas, tu parlais de Game Pass incontournable. Encore une fois, d'un point de vue d'un joueur PC, s'il y a bien une chose que j'envie, c'est ça. Ce sont les abonnements et les jeux qui tombent régulièrement.
Ah ben, le Game Pass, tu l'as aussi sur PC. Hein. Tu peux t'abonner au Game Pass PC. Il y a moins de jeux que sur Game Pass console, mais voilà. Tu l'as aussi. Donc oui, il y a moins de jeux, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et on précise aussi dans la chatroom, la plupart des jeux qui sont inclus dans le Game Pass ont des DLC qui sont inclus, qui sont pas inclus justement dans le Game Pass. Donc un jeu qu'on vous file sur le Game Pass, c'est souvent le cas aussi dans les jeux qui sont inclus dans le PlayStation Plus ou ce genre de choses, bah, c'est des jeux qui sont inclus, qu'on vous file gratuitement, mais il y a souvent des trucs qu'on peut rajouter en plus, des extensions, des upgrades, ce genre de choses, qu'on peut payer. Donc il y a aussi un moyen de monétiser les gens en plus de leur abonnement, effectivement. Alors, c'était un petit peu la grosse news, donc je voudrais qu'on parle maintenant de nos jeux du moment. Je vais peut-être me lancer avec un jeu du moment qui est vraiment un jeu super récent, qui est Street Fighter V, dans lequel je me suis vraiment lancé, comme j'en parlais la semaine dernière, et je ne sais pas si j'avais déjà... réussi à arriver au niveau silver la semaine dernière, mais maintenant ça y est, je suis passé niveau silver et c'est marrant parce que on retrouve ce plaisir de la compétition d'une manière qui est très différente de la compétition des autres jeux compétitifs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube que je vous encourage à aller regarder, qui s'appelle « Le moment 37 et la beauté des jeux de combat », qui est... En fait, le moment 37, c'est un moment hyper emblématique de l'histoire du jeu vidéo. C'est un moment qu'il faut connaître et je vous explique pourquoi c'est aussi fort. Donc, vraiment, allez regarder ça sur la chaîne. Et je parle un petit peu de pourquoi les jeux de combat sont tellement cool et tellement particuliers. Mais je suis vraiment replongé dedans et... Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer à jouer régulièrement, mais c'est vraiment un fun très spécial. On est seul face à l'adversaire, on n'a que notre capacité et notre maîtrise et notre expérience du jeu face à notre ennemi. C'est vraiment très, très spécial et je suis complètement retombé en amour, comme disent les Canadiens, des jeux de combat, et en particulier de Street Fighter V. Et c'est marrant parce que dans Street Fighter, quand on atteint le niveau Silver, on est dans les 20% des meilleurs joueurs de compétitif. Alors, ça compte tous les gens qui ont joué une fois ou deux, qui sont restés en rookie. Mais ça compte vraiment, c'est beaucoup plus... Ça se raréfie beaucoup plus vite que dans les jeux qui ont une équipe ou ce genre de choses. Dans les jeux comme Overwatch, il faut monter en gold ou même platine pour être dans les 20%. Là, dès le silver, c'est vraiment... C'est-à-dire que même avec le même nombre de... la même graduation, il y a peu de gens qui montent beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, c'est un petit peu étrange, mais bref. Et donc, j'étais très fier d'être dans en silver. Et je peux vous dire que quand on est en silver, c'est plus la même histoire. Hein. Tout de suite, j'ai joué le week-end. Je me suis fait mais massacrer. J'ai pas joué en ranked. Je me suis réfugié dans le casual et j'ai eu très, très peur. Et on m'a botté le popotin. Ça m'a beaucoup frustré. Je me suis fait massacrer en règle tout le week-end. Donc, bon, c'est un petit peu plus compliqué en silver, on va dire. Mais je progresse. J'ai bon espoir. Espoir que ça se passe un petit peu mieux dans les semaines à venir.
Et alors, tu as un objectif, Patrick ?
Pas du tout, pas du tout. Enfin, si.
T'amuser au moins.
Oui, bah si, m'amuser évidemment. En fait, tu as silver, super silver, ultra silver. Je pense même pas que j'ai les capacités pour arriver en super silver. Si je réussis, quand je retourne en compétitif, à ne pas me redescendre en bronze, je serai content. C'est ça mon objectif, c'est de pouvoir rester en silver en fait, de gagner ma place en silver. Mais c'est marrant parce que c'est ce moment particulier, dans tous les jeux compétitifs on a ce moment, et en plus dans les jeux où c'est vraiment un contre un, il n'y a ni la chance ni l'équipe, il n'y a rien, il n'y a que toi et ton ennemi comme je le disais, tu veux progresser. Et donc t'essayes des trucs. Et il y a un moment où, comme tu essayes des trucs nouveaux et différents pour rester au niveau, et ben en fait, tu merdes un peu ce que tu connaissais déjà, ou tu n'es plus aussi carré sur les trucs que tu connaissais déjà. Donc, il y a un moment de progression où, en fait, tu recules. Et moi, je suis en plus en plein dans ce moment. Je ne sais pas si je réussirai à arriver à l'étape progression de cet apprentissage. Mais,
si,
ouais.
Je pense que c'est comme dans tout apprentissage, tu as des plateaux. Et c'est là qu'il faut s'accrocher et continuer à s'exercer. Quoi. Tu vas y arriver, Patrick. Écoute, prochain mois, t'es silver plus gold.
J'aimerais. Ouais, non, je pense pas. Parce que, en fait, j'aurais pas le temps. Le problème, c'est que j'ai une vie de famille et je ne suis plus à l'âge où on peut, ou pas encore, ça sera dans 5-6 ans, où je peux me dédier à un truc comme ça. Donc, pour le moment, mes expectations sont très low. Mais je m'amuse et c'est l'essentiel. Et allez voir effectivement la vidéo sur la chaîne youtube.com/notepatrick pour voir cette vidéo sur le moment 37. C'est vraiment un moment unique dans l'histoire du jeu vidéo. J'ai aussi joué à Maquette, qui est un des jeux qui était donné avec le PlayStation Plus, qui est vraiment un jeu, comment dire, c'est intéressant, mais je crains qu'il passe un peu à côté. C'est un jeu qui a un concept vraiment intéressant. On est dans un espace un petit peu imaginaire où il y a des bâtiments, et à l'intérieur, il y a une sorte de carrousel, ou de dôme, et à l'intérieur du dôme, il y a l'ensemble des bâtiments, mais en maquette, donc en tout petit. Et quand on bouge quelque chose dans la maquette, ça le bouge dans la version grande et vice-versa. Et donc, il y a tout un jeu de puzzles pour essayer de résoudre des puzzles et pour avancer dans l'histoire, où on doit déplacer des choses dans la maquette et ça les déplace dans l'environnement plus grand, et on doit les déplacer dans l'environnement plus grand et ça les déplace dans la maquette, ça peut débloquer des choses, etc. C'est un concept qui est intéressant. Je me disais, mais est-ce que j'ai déjà vu ça quelque part ? Est-ce que c'était le truc que j'avais vu ou est-ce que c'était autre chose ? En fait, il se trouve que A Fisherman's Tale faisait déjà ça en VR. Et j'étais complètement... Là, j'arrivais pas à me souvenir d'où ça venait. En fait, c'est de là que ça venait. C'est A Fisherman's Tale. Et c'est un concept sympa, mais ce qui est intéressant dans Maquette, encore plus que ce concept-là, parce que les puzzles sont un peu... t'es un peu sur des rails, t'as pas beaucoup de liberté, t'es pas très... c'est pas très stimulant, on va dire. Pour un jeu de puzzle, c'est un petit peu dommage. Mais c'est presque plus un walking simulator, en fait. C'est plus l'histoire, et c'est l'histoire d'une relation... qui est assez bien écrite. Ça m'a presque fait penser au début de Firewatch, où c'était uniquement en texte. Firewatch, c'est une écriture sur l'introduction qui est invraisemblablement bien écrite, vraiment. Ça vaut le coup de faire le début de Firewatch, les 10 premières minutes, rien que pour ça. Mais ça m'a fait penser un petit peu à ça. C'est une histoire d'une relation et c'est assez bien écrit. En fait, on suit plus l'histoire de cette relation, qui est assez poétique, qui est assez bien jouée. En plus, il y a les deux personnes de la relation qui font des dialogues pour expliquer ce qui s'est passé. Et c'est assez bien joué. On suit plus l'histoire qu'on vraiment on fait un jeu de puzzle, quoi. En tout cas, jusque là où je suis arrivé, j'ai dû jouer, je sais pas, une heure ou deux. Mais c'est sympa. Le problème, c'est que c'est le genre de jeu qui n'est pas assez cool dans son genre pour supplanter les autres jeux auxquels on a envie de jouer. Je dirais que si la description, là, vous intéresse et vous attire, tentez le coup, mais ce n'est pas pour tout le monde. J'aime faire mes classements. Est-ce que c'est pour tout le monde ou pour les fans? Là, on est vraiment pour les fans qui seraient vraiment intéressés par ce type de jeu-là précisément, plutôt que pour les gens qui ne sont pas spécialement intéressés par ces jeux-là. Ils ne transcendent pas son genre, quoi.
Bah, écoute, je l'avais mis dans ma wishlist Steam depuis un moment parce que visuellement il m'avait interpellé. Je trouvais que la DA était vraiment très chouette et vu que je suis le genre de personne un petit peu pigeon sur les bords qui se laisse facilement attirer juste par une DA, ce qui m'a valu beaucoup de déceptions. Bah, du coup, je pense que je vais le retirer de ma wishlist après tout ce que tu as.
Bah, il est sur le PlayStation Plus, donc si tu as le PlayStation Plus, tu l'as déjà en fait.
Ah, non,
tu l'as pas, d'accord. Pas, okay. En plus, c'est un Anapurna, etc. Oui.
Je suis pas sûr d'avoir bien compris l'intérêt de ce passage entre la maquette et le.
Alors, il y a un truc que j'ai pas dit qui est important et qu'on me rappelle dans la chatroom. Merci, petit bonbon. Décidément, aujourd'hui, la chatroom me rappelle tout. On peut passer des choses, des objets de la maquette au monde réel et vice-versa. Donc, tu peux changer, tu vois, un objet qui est super grand dans le monde réel, enfin, qui est de taille normale dans le monde réel, tu le places dans la maquette. Et il est géant pour la maquette. Et quand tu retournes dans le monde réel, et ben cet objet a changé de taille. Et si c'est, il y a ce truc au début, tu as un pont que tu places dans la maquette, et ben le pont a été placé dans le monde réel aussi. Tu vois, donc en bougeant des trucs ou en amenant d'un monde à l'autre des choses, et ben tu peux les changer leur perspective et leur taille dans les deux environnements. Je dis les deux, mais il y a une petite surprise, clin d'œil que vous pourrez remarquer si vous observez bien. Mais...
Et les maquettes, les énigmes sont abordables ou c'est, tu vois, par rapport à un The Witness par exemple.
Alors écoute, jusqu'à maintenant, c'était même pas des énigmes, c'était très très simple. Très, très simple.
D'accord.
Et je suis sûr que c'est le début. Donc... Mais le jeu n'est pas très long, c'est 5 heures, je crois. C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus... Il semble qu'il y en ait des un peu plus compliqués et même un peu arbitrairement compliqués. Mais c'est pour ça que je dis que c'est plus un walking simulator. C'est vraiment pour suivre l'histoire jusqu'à maintenant. Mais c'est pas forcément une super critique. Hein. C'est plutôt cool comme expérience, mais c'est pas transcendant. Voilà, tu te laisses porter, quoi.
Ok.
Donc voilà pour Maquette. Et vous alors, à quoi vous avez joué tu joues à de la réalité virtuelle, Julien?
Oui, alors justement, tu parlais de cette espèce d'effet de zone quand tu es dans des jeux compétitifs. Et moi, un jeu que j'aime beaucoup en réalité virtuelle, c'est Beat Saber.
Ah, on le connaît bien celui-là.
Oui, voilà. Je pense que la plupart des auditeurs connaîtront. Et je trouve le jeu parfait pour vraiment être dans ta zone, ne fût-ce que 3 minutes. En tout cas, sur moi, ça marche hyper bien.
Écoute, Beat Saber, je pense que tout le monde connaît. Hein, c'est un jeu de rythme en réalité virtuelle qui est sans doute le plus gros succès de la réalité virtuelle. Moi, j'aimerais bien t'entendre parler de Robot Recall plutôt, qui est l'un des plus gros succès aussi de la réalité virtuelle, en tout cas l'un des meilleurs jeux qui soit proposé en réalité virtuelle et auquel moi, j'ai jamais joué. Et c'est l'un des jeux que les gens prennent en exemple en disant bah, « Regarde, ça peut fonctionner les jeux cool en réalité virtuelle ». C'est quoi? Ça marche comment? Dis-nous tout.
Alors, Robot Recall, pour décrire ça niveau expérience, moi, c'est ce qui m'a fait l'impression d'avoir une borne d'arcade à la maison dans les années 90 où tu avais les bornes d'arcade avec les fusils sur lesquels tu tirais qui te donnaient une expérience assez sympathique. Moi, c'est typiquement le genre de sensation que j'ai retrouvé. Ça te fait vraiment, comme tu dis, le wow effect. Mm. T'essayes ça, tu es dedans. Et donc, concrètement, ce que c'est un jeu de tir où on se déplace en se téléportant et le but, c'est de flinguer tous les petits robots qui partent.
D'accord.
Qui passent, pardon. Alors, l'expérience est très, justement, années 80 avec une musique un petit peu de ces années-là. Des robots un peu foufous, de l'humour un petit peu partout. Et techniquement, ça fonctionne aussi super bien. La précision est juste parfaite. Alors, la première fois que je l'ai essayé, c'était sur le CV1, le premier Oculus qui a été réalisé. Ça marchait déjà très très bien. Ici, je joue sur le Quest 2, donc en mode portable, sans fil derrière, et c'est encore beaucoup mieux.
C'est un jeu de tir en réalité virtuelle. Ça. C'est un shooting gallery, en fait. Et donc, c'est juste un moment de... J'imagine que c'est un moment de fun, de défoulement, quoi, c'est ça ?
Complètement. C'est complètement un moment de fun. Le jeu n'est pas très, très long. Tu peux le finir, je pense, en 2 heures. Après, tu as quelques petits trucs à débloquer, mais une dizaine d'heures et c'est fini. Mais c'est malgré tout un jeu auquel je reviens très régulièrement parce que c'est exactement ça. C'est le fun.
Est-ce que les armes différentes sont vraiment différentes sortes de fun ? On voit sur le trailer qu'il y a des différents types de pistolets, fusils à pompe, on peut même attraper les balles et les renvoyer à l'envoyeur, justement.
Tu peux attraper les balles, tu peux les parer avec ton pistolet, tu peux attraper les robots, les relancer sur d'autres robots. L'interaction avec l'environnement est assez bien faite. Est-ce que les armes vont vraiment changer l'expérience ? C'est pas comme dans un FPS où ça va te changer, je trouve, totalement le gameplay.
Et ça reste.
Mais voilà, ça reste très sympa. C'est pas très très cher. Et franchement, pour ceux qui ont un casque, je trouve que ça vaut le coup.
Tu as aussi joué à Delver. Alors, qu'est-ce que c'est que Delver ? D-E-L-V-E-R.
Oui, alors pour moi, c'est le jeu qui n'a pas eu. Qui n'a pas eu le succès qu'il mérite. C'est un roguelite où le but, c'est simplement d'aller explorer un donjon. C'est très simple à prendre en main. Ce sont des graphismes, on va dire, qui ressemblent à du Minecraft plus, un Minecraft un petit peu amélioré. Enfin, personnellement, Minecraft, je trouve ça joli. Ce serait un petit peu moche. Ce serait un petit peu la version jolie de Minecraft.
Ouais, moi, je dirais c'est la version de Minecraft, mais avec... C'est un mix entre Doom et Minecraft, j'ai l'impression.
C'est ça, oui, effectivement, un petit mix entre Doom et alors les premiers Doom, pas les reboots et Minecraft. Les parties se font aussi, enfin, c'est peut-être parce que je suis nul, mais se font assez rapidement. c'est quelque chose de sympa pour quelqu'un qui n'a pas le temps de faire des expériences de centaines d'heures de jeu.
C'est un jeu qui est sorti il y a un moment quand même. Je vois que c'est 2017.
Oui, c'est possible. Oui, ça fait quelques années. Il était même sorti avant en Early Access ou en bêta, la façon dont ça s'appelait à l'époque, en tout cas. Et alors, le petit... Alors ça, c'est moi, mon côté développeur, mais le moteur du jeu, en fait, est open source et libre d'accès, libre de consultation, de modification.
D'accord. Bon, ça a l'air sympathique, merci bien. Delver, D-E-L-V-E-R, effectivement, c'est assez, assez joli. C'est dommage, hein. À l'époque, j'imagine que c'était un roguelite qui était là avant l'invasion des roguelites, mais bon, aujourd'hui, il est peut-être un petit peu moins original.
Avant, pendant.
Pendant, ouais. Et Maïté, Cyberpunk, ça y est, c'est fini ?
Ça y est, j'ai fini toutes les missions secondaires de Cyberpunk. Donc, la dernière fois qu'on s'en était parlé, j'avais fini la campagne principale. Et donc, je n'ai pas résisté à faire tout ce qu'il y avait autour en tant que bonne complétiste. Et du coup, là, j'en suis à 60 heures de jeu. Alors, je dis bonne complétiste, mais je n'étais pas été au bout de la maniaquerie, parce qu'en fait, il y a encore plein de petits... contrats, pour ceux qui jouent, les petits contrats qui apparaissent en bleu sur la map à faire, et là je me dis ça me rajouterait facilement 10 ou 20 heures de jeu, donc je vais peut-être passer à autre chose maintenant. Mais ouais, je me suis vraiment bien amusée. Bon, après j'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à la dernière fois, si ce n'est que pour moi le jeu est vraiment généreux. Il y a vraiment un effort sur l'écriture, parce que il y a vraiment beaucoup de quêtes secondaires, comme je te dis, il y a 60 heures de jeu avec la quête principale et les quêtes secondaires, et il y a une écriture pour chacune d'entre elles, et même les petites quêtes que j'ai pas faites, là, les espèces de petits événements en bleu sur la map, et bah t'as aussi toujours un petit scénario, une petite écriture. Alors des fois c'est juste un texte que tu vas looter sur un mec mort au milieu d'une zone, mais t'as toujours, c'est pas juste tu fais la quête et y a pas de contexte, y a pas de RP entre guillemets autour de la scène, t'as toujours vraiment cet effort d'écriture, et rien que pour ça, moi je trouve que ça reste Enfin, en tout cas, CD Red Project a livré ce qu'il avait promis de livrer, je trouve, en termes d'écriture, quoi. Donc voilà. Et je suis passée à autre chose, mais là, je me réfugie sur des jeux un petit peu plus légers. Je suis passée sur un jeu qui s'appelle Nanotail, qui est un petit jeu qui ressemble un petit peu à, on en parlait juste avant avec Julien, à Typing of the Dead,
je crois. Je précise quand même que Nanotail est un jeu disponible sur Stadia. Donc attention, on est inclusif dans cette émission. On parle aussi des jeux Stadia. Dis-nous tout, ouais.
Bah, en gros, c'est juste un jeu, c'est vraiment un jeu de vieux, en fait. pour moi, c'est un peu le genre de jeu, tu vois, un peu comme quand je joue au Picross, quoi. C'est mes jeux de la honte, mais auxquels je suis super contente de jouer quand même. Alors, en gros, le principe, c'est que c'est un petit RPG, un petit action RPG. Vous baladez dans un monde fantastique et il y a des monstres qui apparaissent à l'écran. Et en fait, pour les tuer, il y a un mot qui apparaît au-dessus, j'en sais rien, par exemple, monstre. Et en fait, il faut taper au clavier monstre. Et en fait, en tapant au clavier ce qui est affiché à l'écran, ça inflige des dégâts. Donc, c'est un jeu de dextérité au clavier. On va dire, il faut taper le plus vite possible pour faire
ça. Ça a l'air très, très cool. Hein. En plus, c'est très beau.
Ouais, c'est hyper mignon. Alors, par contre, je trouve qu'en termes d'optimisation, ils se sont foirés parce que j'en parlais l'autre jour avec des potes. Je leur disais que je mettais moins de temps à lancer Cyberpunk sur ma machine qu'à lancer Nanotail. Donc,
mais il faut jouer sur Stadia, c'est pour ça, Eska.
Oui, j'ai rien compris, désolé. Donc voilà, c'est un petit jeu détente et un autre jeu là sur lequel je suis en ce moment.
Attends,
c'est...
juste pour finir sur Nanotail, c'est juste ça, c'est-à-dire qu'on tape le nom, le mot qui est au-dessus de la tête de l'ennemi, ça lui inflige des dégâts et on refait ça 12 000 fois. Alors non. Il n'y a pas de subtilité du tout dans le gameplay ?
Si, il y a une petite subtilité justement par rapport à un Typing of the Dead où là c'est vraiment que ça. Dans Nanotail, ils ont apporté une petite subtilité de gameplay qui est intéressante, c'est qu'en fait tu joues un personnage qui a des pouvoirs magiques, enfin qui découvre qu'il a des pouvoirs magiques, et donc en plus de juste taper ce qui apparaît au-dessus des monstres pour leur infliger des dégâts, tu peux aussi lancer des sorts. Donc en fait, tu as une espèce de barre de sorts dans laquelle tu peux dire, bah, par exemple, je veux lancer un sort de feu, donc tu vas taper feu. Après, tu dis, je veux que mon sort de feu il soit en forme de rayon, donc tu vas taper rayon. Et après, tu dis que tu veux que ce soit un rayon large, un rayon fin, un rayon précis. Et donc en fait, tu tapes un combo de mots avant de viser un monstre en tapant le nom qui affiche au-dessus de sa tête. Et donc, tu vas en fait lancer des sorts. Après, il y a des sorts environnementaux, des choses comme ça. Donc, il y a une petite originalité quand même que je trouve assez, assez sympathique. Donc voilà, c'est un jeu pas prise de tête. Moi, je dis que c'est un jeu de vieux parce qu'il faut taper au clavier, tu vois. J'ai un peu l'impression d'être devant une machine à écrire et que c'est vraiment très particulier, mais c'est sympathique.
Eh ben écoute, ça a l'air plutôt cool. Moi,
ça te fait envie, apparemment.
J'irai pas jusque-là, mais d'une part, je trouve pas que ça soit un jeu de vieux, mais c'est... non, je trouve ça marrant comme concept. Et je sais pas, le fait de pouvoir choisir les sorts que tu vas lancer en tapant leur nom, je trouve ça intéressant. C'est marrant,
j'en avais
quoi,
fait
comme
un
concept.
Autre dans le même genre, mais je retrouve plus le nom. Pareil, avec un petit renard de mémoire. J'en avais fait... Alors, peut-être que je vais le retrouver en cherchant dans ma... Oui, ça s'appelait Epistory, et je pense que c'est les mêmes qui ont fait Nanotail, parce que c'est le même sous-titre. Ça s'appelle Typing Chronicles. Epistory, que j'avais beaucoup aimé. Donc, c'est le même concept, mais par contre, là, c'est beaucoup plus simpliste de mémoire. Il n'y avait pas ce système de lancement de sorts, etc.
D'accord. Mais très cool. Sympathique. Bah écoute, ça s'appelle Nanotail, et l'autre tout jeu auquel tu joues...
Alors, mon dernier jeu auquel je joue, mais en fait, j'ai arrêté d'y jouer, c'est The Passless sur Apple Arcade, qui est ce jeu de... Ah, merde, ceux qui ont fait ceux qui ont fait Abzu... je me rappelle plus le nom.
Je sais plus comment il s'appelle, mais effectivement...
Ça va me revenir. Mais donc, un jeu, a priori, très, très zen, presque Walking Simulator, où on joue une nana avec un arc et un aigle, et qui doit, en gros, il y a une force maléfique dans un grand territoire forestier, et elle doit comprendre d'où vient cette force maléfique et la chasser. Donc c'est une histoire hyper bidon, enfin hyper basique. Et du coup, j'y joue sur mon iPad, et en fait, j'ai été super déçue.
Ah oui.
Et du coup, J'ai arrêté au bout de peut-être 2 heures, alors que je suis vraiment très très cliente de leurs jeux habituellement.
Donc c'est les jeux Giant, Giant Squid. Squid. Hein.
Ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est ceux qui ont fait Abzu. Je sais plus ce qu'ils ont fait d'autre, mais enfin, en tout cas, je retiens à chaque fois Abzu parce que j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce jeu. Et au final, là, je trouve que je joue à l'iPad, mais si tu veux, je tiens l'iPad entre mes mains, donc j'utilise mes pouces sur l'écran. Je trouve que la maniabilité est... ça fonctionne pas. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne pas. Les petites énigmes qu'ils mettent en jeu sont pas hyper fines. Enfin, j'accroche pas du tout. J'accroche pas à l'univers que je trouve un petit peu trop simpliste, déjà vu. Bah, je suis assez déçue. Même la musique, j'accroche pas, alors que dans Abzu, la musique, elle m'avait complètement charmée. Donc, c'est un peu la déception. Donc, j'ai fini par le désinstaller parce que de toute façon, je prenais pas plaisir à jouer. Donc,
oh là là, quelle déception. La plupart
pourtant,
des gens
semblent...
j'en avais
entendu beaucoup de bien.
Bah, tout le monde dit que c'est le déplacement qui est vraiment cool et qu'il y a une sorte de flow, c'est grisant de passer, de se déplacer, de glisser partout et de viser au bon moment avec le bon rythme pour continuer à gagner de la vitesse. Clairement, ça n'a pas fonctionné
peut-être.
Sur toi. Quoi. À la manette peut-être.
Ouais,
c'est vrai qu'il
peut-être.
Avait... Il avait fait beaucoup plus de bruit en sortant sur console que quand il était sorti sur Apple Arcade. C'était l'un des jeux de lancement de l'Apple Arcade. Et à la limite, tu peux sortir ta manette sur l'iPad hein, pour y jouer à la manette sur iPad.
Oui, c'est ce que je me suis dit au début. Je me suis dit peut-être qu'en fait, c'est juste la maniabilité où j'accroche pas. J'ai eu la flemme de sortir ma manette, pour tout avouer. Et je me suis dit, je vais quand même continuer un peu. Et au final, c'est vu que j'accrochais pas à tout ce qu'il y avait autour, je me suis dit, bon, avec ou sans manette, je pense qu'au
d'accord.
final... voilà, donc bah, écoute, un petit peu déçu.
Ça arrive de temps en temps.
Et oui,
très bien.
Il faut bien.
Bah écoutez, merci pour tous ces jeux que vous nous avez évoqués. On rappelle qu'on a parlé de Street Fighter V, Maquette, Robo Recall, Beat Saber, Delver, Cyberpunk, The Pathless et Nanotale. Écoutez, je vais prendre une toute petite minute pour vous parler du Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon ? Patreon, c'est le moyen de soutenir le rendez-vous jeu. Si vous appréciez le rendez-vous jeu, si vous passez un bon moment quand vous écoutez l'émission, si vous avez une petite pointe de plaisir quand vous découvrez que vous avez l'émission disponible sur votre application de podcast, eh ben peut-être que vous vous dites c'est un podcast cool que j'aimerais soutenir. Il m'apporte quelque chose. Allez, ça vaut bien le prix d'un café, le prix d'un croissant, quelque chose comme ça. Si vous voulez m'envoyer un croissant, je reste la bouche ouverte comme ça et je l'attrape au vol. Et ça se fait sur Patreon, patreon.com/rdvjeu. Il faudrait peut-être que je renomme les noms des niveaux de soutien, genre... envoyer un croissant pour que je l'attrape au vol ou ce genre de choses. En tout cas, c'est sur patreon.com/rdvjeu. Vous pouvez choisir le montant que vous donnez pour soutenir un épisode. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. C'est vraiment vous qui avez le contrôle. Et en plus de ça, ça vous donne droit à des bonus assez cool, comme le fait d'avoir les time codes pour passer d'un moment à l'autre de l'émission, le fait d'avoir des bonus dans le flux privé, le fait de ne pas avoir de pub, etc. etc. Et en plus de ça, bien sûr, le plaisir, la fierté de soutenir l'émission. Et comme ça, quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol à l'entrée et que ça fait cling, et que vous souvenez que j'en parle souvent et que je vous dis, bah c'est à ce moment que vous pensez à soutenir l'émission et que vous allez sur l'ordinateur pour le faire, et bien là, non, c'est pas que vous pensez à soutenir l'émission, c'est que ça fait cling, et là, vous dites, oh, Patrick, je le soutiens. Je suis un soutien actif de son podcast. Moi, je suis un super-héros de la création de contenu parce que je peux, j'aide les gens à créer le contenu que j'apprécie. Je suis quelqu'un de bien. Eh bien, tout ça, c'est ce que vous propose le soutien sur patreon.com/rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez faire ça depuis votre mobile, là, tout de suite, si vous le souhaitez, ou quand vous rentrez chez vous, patreon.com/rdvjeu. Et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon. Je vois que dans la chatroom, il y a tous ceux qui soutiennent, qui disent « cling, cling, cling ». Allez-y, si vous êtes, dans la chatroom et que vous soutenez l'émission, vous pouvez dire « cling ». Les autres, vous ne pouvez pas. Mais ceux qui soutiennent, vous pouvez dire « cling ». Allez-y, que je vous vois et que j'apprécie. Oh là là, « cling, cling, cling ». C'est super cool.
Tu sais, Patrick, tu parlais de croissants. Moi, je connais des podcasteurs qui se font rémunérer en bière. Hein, mais ce n'est pas une blague. C'est un podcast québécois qui s'appelle Distorsion. Et ils ont un système où tu peux leur offrir une tournée de bière. Voilà. Alors, à 10h du mat, ce n'est pas terrible. Mais sauf quand tu habites dans ma région, peut-être même dans celle de Julien. Parce que du coup, j'ai capté un peu tard avec son accent qu'effectivement, il était belge. Et que j'ai compris pourquoi il nous parlait de la Belgique juste avant le...
Effectivement. C'est vrai que les croissants et la bière, c'est pas mal, mais l'argent pour pouvoir payer les factures, c'est bien aussi quand même. Je dois dire que ça a un petit côté.
Malheureusement, ça se paye pas en bière.
Ouais. Aussi. Oui, ils acceptent pas trop la bière, ni en France, ni en Finlande, dans l'administration. Merci à tous les clings et les clongs. Merci à vous tous. Alors. Quelques petites news supplémentaires qu'on va traiter. On a un trailer pour It Takes Two, le nouveau jeu de Haze Light, que j'ai trouvé assez cool. En fait, It Takes Two, c'est, vous savez, c'est cette société qui fait des jeux en coopération, Brothers, ou... comment il s'appelait le deuxième ? C'est Joseph Fares, le type qui parle très très fort aux Game Awards, qui est chez EA. Ah, je me souviens plus du deuxième jeu qu'ils ont fait. Quoi qu'il en soit, It Takes Two est encore un jeu en coopération qui m'intéressait... Ah, A Way Out, c'est ça, c'est A Way Out, l'autre. Qui, a priori, m'intéressait pas trop. Et en voyant le trailer, j'ai trouvé ça assez intriguant. C'est vraiment deux personnes... En fait, c'est une petite fille dont les parents s'entendent plus très bien et qui voudrait qu'ils s'entendent mieux. Et on joue des sortes de petites poupées et qui vivent dans un monde fantastique basé sur leurs relations. On voit à un moment un grand aspirateur. En fait, l'un des ennemis, c'est un jeu de plateforme. Et l'un des ennemis, à un moment, c'est un aspirateur qui dit « Vous aviez dit que vous me répareriez !» Et ils sont en train de s'engueuler sur qui devait réparer l'aspirateur. Et ça a l'air très... Il y a l'air d'y avoir beaucoup d'humanité et beaucoup d'âme dans ce jeu. Donc, je suis curieux. Je suis un petit peu plus curieux maintenant de voir ce que ça donnera. Et c'est toujours le jeu en coop, comme aime les faire Joseph Fares.
Ouais, visuellement, c'est vraiment ultra chouette. C'est mignon comme tout.
Ouais, c'est un monde... c'est un petit peu un truc qu'on ferait en stop motion, en fait. Un dessin animé de stop motion, un peu. Mais...
Je trouve que la thématique abordée... je connais pas beaucoup de jeux vidéo qui en parlent. Je trouve ça assez sympa aussi.
Ouais. Je suis curieux. Un petit peu intrigué, on va dire. D'autres trucs, il y a une date de sortie pour Monster Hunter Stories. Si vous êtes fan de Monster Hunter en ce moment, c'est la joie parce qu'il y a Rise qui arrive sur Switch et sur Steam dans deux semaines, le 26 mars. Et il y a Stories le 9 juillet sur Switch uniquement, si je ne m'abuse. Autant Rise, c'est un Monster Hunter, on va dire, un petit peu classique. Autant Stories, alors il y avait déjà eu un Stories 1, là c'est le Stories 2. Mais c'est un truc qui pourrait... inviter les gens dans l'univers de Monster Hunter parce que c'est vraiment un jeu de rôle beaucoup plus classique avec un Rathalos qui est l'un des monstres de Monster Hunter. On a un œuf de Rathalos, mais c'est un monstre terrifiant. Mais en même temps, nous, c'est notre petit mini Rathalos qu'on doit protéger, mais le monde ne veut pas qu'on l'ait avec nous, etc. Ça a l'air d'être beaucoup plus RPG classique. Peut-être que ça pourrait être intéressant pour découvrir le monde de Monster Hunter Stories. Enfin, Monster Hunter Stories 2 pourrait être un bon moyen moyen de découvrir le monde de Monster Hunter, peut-être. Quoi d'autre que je ne me perde pas dans mes notes, Apex Legends est sorti sur Switch. pardon. Alors, visiblement, c'est un jeu qui est... C'est Panic Button qui, généralement, est hyper bon dans ce type de conversion sur, sur Switch, qui, là, a fait un bon boulot, mais ça reste quand même bien en dessous de ce qu'on... Même de ce qu'on aurait pu espérer, parce qu'il ne tient pas du tout, même les 30 images secondes. Dans les moments où ça explose un petit peu de partout, il descend à 10 images secondes, ce qui, pour un jeu compétitif, peut être handicapant. Bon, après, il est sur Switch, hein, voilà. C'est comme tous les jeux sur Switch, on va dire. Et puis
moi j'ai beaucoup de mal à imaginer, enfin je sais qu'il est déjà sorti sur console, mais comment tu joues à ce genre de jeu sur manette, quoi? Enfin, pour moi c'est tellement...
Ah bah c'est comme tous les FPS, ça il y a pas tellement de problèmes. Si
bah je sais pas, en fait c'est un jeu sur lequel tu dois avoir une telle détente vu que c'est du Battle Royale, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer jouer à la manette, quoi. Mais bon, c'est encore une fois, tu vois, c'est mon côté
c'est ton côté élitiste PC que... quoi.
Non, c'est là que je suis en train de voir que je vieillis. Je suis en train de devenir une daronne du jeu vidéo. Je joue à des jeux où il faut taper sur le clavier et le vieux débat manette versus clavier souris.
Bah écoute, je te confirme que pour un FPS, généralement, t'es plus à l'aise sur PC que sur console, et encore plus sur console Xbox ou PlayStation que sur Switch. Donc, il y a l'option pour jouer en crossplay. Ce que conseillent les gens, visiblement, c'est de désactiver cette option et de ne jouer qu'avec des gens qui sont sur Switch, parce que sinon, t'as clairement un désavantage. Donc ça, c'est à noter. Mais je crois que pour les gens qui jouent que sur Switch, bah voilà, si t'as une Switch, tu peux y jouer, et si t'as pas autre chose, de toute façon, tu pourrais pas. Donc, c'est toujours bon à prendre. C'est un jeu gratuit, donc autant... Tu peux le tester, au moins, quoi.
Oui.
On va dire ça comme ça. Et sinon, Konami a annoncé Beat Arena. Alors, c'est intéressant à deux égards. D'une part, c'est Konami qui fait encore des jeux. Et c'est un jeu de la série Beatmania de l'époque, hein, de la grande époque. Et il est en réalité virtuelle. C'est Beat Arena en réalité virtuelle. Donc, un jeu de rythme où tu peux jouer à plusieurs avec différents instruments en réalité virtuelle. Si c'est votre truc, il sera disponible sur Oculus Quest 2. Je ne crois pas qu'il sera disponible sur... Je regarde l'article de Gamekult. Je ne crois pas qu'il sera disponible sur PlayStation VR. Donc, c'est vraiment sur Oculus Quest uniquement. C'est dès demain qu'il sera disponible. Donc, au moment où vous écoutez cette émission, si vous en avez marre de Beat Saber, eh ben, il y a Beat Arena qui sera là pour vous.
Perso, j'ai trouvé qu'il faisait un peu scomorphisme de la VR, dans le sens où il essayait de coller un peu à la réalité.
Un petit peu, ouais. Pas forcément pour le meilleur.
DDR arcade, je trouve.
Voilà, bah, c'est complètement DDR, ouais. C'est complètement DDR et Beatmania en général, ouais. Quoi d'autre ? Alors... Valve a annulé Artifact. Vous savez que Artifact, c'est un petit peu comme Anthem 2.0. Artifact, leur jeu de cartes, s'était complètement planté à l'origine. Ils ont dit qu'ils allaient le retravailler. Et ben là, ils ont complètement laissé tomber le truc. Et ils donnent toutes les versions gratuitement de Artifact. Donc Artifact 2.0 ne verra pas le jour. Mais de l'autre côté, on a l'opposé qui se passe avec Paragon. Vous vous souvenez de ce que c'était Paragon ?
À peine. Ça a changé de nom, me semble-t-il.
Ça me parle, mais...
Alors, justement, Paragon, c'était le jeu de Epic qui était censé être... Enfin, c'était un MOBA vu de derrière, à la troisième personne, un petit peu comme Smite. Mais il a été abandonné parce qu'à ce moment-là, il y a Fortnite qui a décollé et ils ont un petit peu... Ils sont concentrés sur Fortnite. Eh bien, il y a la communauté qui s'est... réunis autour du jeu qui était devenu gratuit, ils ont donné toutes les assets et il y a une société qui s'appelle Omeda qui a levé 2,2 millions de dollars pour le recréer, en fait, le ressortir. Il a un nouveau nom, il s'appelle Prédécesseur maintenant, qui est une version, on va dire, commerciale, retravaillée de Paragon. Et si vous vous dites, est-ce que 2 millions, ça suffit pour refaire un jeu? Bah, comme on a déjà les dizaines de millions, les 20 millions qu'a mis Epic dans le développement et qu'ils ont toutes ces assets, ils vont peut-être pouvoir en faire quelque chose. Et c'est plutôt une belle histoire, quoi, on va dire, dans ce... dans ce domaine. Un jeu disparaît avec Artifact et un jeu réapparaît avec Paragon rebaptisé Prédécesseur. Moi, je vous avoue que je ne suis pas hyper convaincu que ça donnera quelque chose d'incroyable. Mais bon, pourquoi pas.
Est-ce que c'est le moment où on reparle de ce jeu-là, dont j'ai oublié le nom, dont il devait faire un reboot qui a été annulé là. J'ai oublié son nom.
Anthem, c'est de ça que...
Oui,
écoute, ça, peut-être que EA mettra à disposition gratuitement en open source toutes les assets d'Anthem pour que la communauté en fasse quelque chose.
Je pense qu'il y en a qui pleurent des larmes de sang, mais...
Un petit peu, ouais. D'ailleurs, en parlant d'EA...
Paragon n'avait pas fait ça ?
Pardon ?
La mise à disposition des assets, ça n'avait pas été fait avec Paragon aussi ?
Si, si, justement, c'est pour ça que je dis que pour 2 millions d'euros de dollars levés, ils vont peut-être réussir à en faire quelque chose parce qu'ils ont déjà les 20 millions d'euros de travail de Paragon de derrière qui sont disponibles pour eux. Sinon, 2 millions, ça ne suffirait pas à faire un jeu de ce type, je pense. Mais là, ils peuvent reprendre ce qu'a déjà fait Epic. C'est pour ça que ça peut marcher. Et à propos de EA, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, ce scandale, il y aurait un employé de EA qui vendait des personnages de FIFA Ultimate Team pour quelques centaines d'euros. Il pouvait créditer ton compte de personnages uniques. Et c'est un scandale qui a... c'est genre... Ouais. Vous savez que FIFA Ultimate Team, c'est un jeu qui se joue avec des loot box, et donc il faut constituer son équipe. C'est vraiment du pur pay to win, on va dire, et paye beaucoup to win. Et quelqu'un qui, c'est vraiment le truc dont EA n'avait pas besoin, avec l'humeur autour des loot box qui est toujours assez chaude, on va dire. Il y a des discussions au niveau légal qui ont encore lieu en Allemagne, par exemple. Et là, il y a quelqu'un, un employé, qui a abusé de sa position pour vendre des trucs. Mon avis, il y en a un qui va passer un très, très, très sale quart d'heure.
Malheureusement, c'est pas nouveau. Du temps où je travaillais chez Ankama, on avait déjà entendu parler de ce genre de problèmes dans les studios de jeux vidéo.
Oui, effectivement.
C'est vrai. Écoute, moi, j'en ai jamais vraiment vu, mais là, le truc qui est notable, c'est que c'est pas juste du DLC. C'est des cartes individuelles que la personne peut choisir et attribuer à un compte sans que... C'est pas qu'il a donné des packs fermés, tu vois. C'est qu'il a donné des joueurs individuels, ce qui était a priori pas censé être possible même de choisir. Enfin bon, si c'est un programmeur qui a accès au compte, qui peut activer ou non des qui peut flipper des switches peut-être, mais... Donc en tout cas, il le faisait, ça semble être confirmé, et EA a ouvert une enquête interne.
Oui, il n'aurait pas dû pouvoir le faire, en fait.
C'est ça, exactement. Normalement, ce n'est pas censé être possible. Alors après, ce qui n'est pas censé être possible et qui est fait quand même... comment dire, techniquement, tout est possible. À partir du moment où un compte peut avoir un perso, tu peux aller fouiller dans le compte et activer des switches ou pas, mais ça ne devrait pas être accessible.
Et puis ça finit toujours par tout savoir, donc il ne faut pas être très malin quand même pour...
Oui, surtout qu'il allait contacter des gens de la communauté et leur dire « Eh, pour 700 balles, je te file Ronaldo. » Mais tu crois que ça va
le
rester...
Le genre de choses qui se sait très vite.
Exactement. Allez, quelques news rapides. Asus a dévoilé le Republic of Gamers Phone 5 qui a un petit peu des faux airs de Switch, bien sûr, comme les téléphones de gamers de ce type. Mais il y a aussi un accessoire qui permet d'avoir des boutons paddle derrière qui sont accessibles avec les index ou les majeurs. Il y a bien sûr des capacités techniques complètement folles pour le téléphone. Complètement folles, on va dire le top du top des téléphones mobiles, sous Android bien sûr. Là où ça peut être vraiment intéressant, c'est en jouant à Stadia ou même au Game Pass, tu peux avoir accès à ce genre de truc. Alors, tu n'as pas besoin d'un téléphone complètement fifou au niveau de la puissance, mais par contre, un bel écran et l'aspect, on a des manettes comme celle de la Switch qui peuvent se connecter, ça peut fonctionner, quoi. Roblox.
Perso, je serais client de ce genre de choses, mais par contre, le prix.
C'est le prix d'un téléphone haut de gamme, effectivement. Ça, c'est un peu inévitable. Ça va te coûter les yeux de la tête. Ça va te coûter le prix d'un gros téléphone, quoi, on va dire.
Mais il y a une marque qui a annoncé un dock pour téléphone qui te permet de facilement multiplexer, d'avoir tes inputs, outputs, comme tu veux.
Qui a annoncé ça?
J'ai vu ça sur Mini Machine juste avant le début. Peut-être que la chatroom pourra encore voler à notre secours. Voilà, c'est Peeling.
Comment ça s'appelle?
Le Peeling Expand X. C'est un dock pour téléphone, comme il y en a probablement beaucoup, mais à combiner, je pense que ça peut être intéressant.
Blink des X-Men. Ça doit pas être ça. Blink, X-Men Movies. Écoute, je suis en train de le chercher, je ne le trouve pas. Ah, B-Link, B-E-E, Link, d'accord. Page not found, eh ben dis-moi.
Ils étaient peut-être chez OVH, hein.
Ils étaient peut-être chez OVH.
C'est moche, ça. Et ils n'ont pas fait de backup. Bah voilà.
Ouais, et d'ailleurs, entre parenthèses, moi, ça ne me fait pas rire du tout. Hein. J'ai eu très, très peur que... Enfin, déjà, il y a plein de sociétés qui ont été affectées par le... Pour ceux qui ne savent pas, un des data centers d'OVH est parti en fumée il y a quelques jours. Il y a eu un incendie. Heureusement, personne n'a été blessé dans l'incendie. Mais il y a plein de sociétés qui sont dans la merde parce qu'ils avaient leur serveur là-dessus et ils n'avaient pas de backup ou ils n'avaient pas... Il y a d'ailleurs Rust, les développeurs de Rust qui ont perdu toute une partie de leur sauvegarde parce qu'ils étaient chez OVH. Moi, j'ai eu très peur que mes sites soient sur ce data center parce que je suis chez OVH. Heureusement, ce n'était pas le cas. Enfin bref, ce n'est pas drôle du tout, quoi.
J'ai eu un petit coup de flip aussi, mais en fait, je suis en mutualisé chez eux. Donc, du coup... C'est...
Ouais,
mais faites des backups, on ne dit jamais.
Oui, oui, il faudrait que je les fasse, moi. Quoi d'autre ? Roblox, dont on parle de temps en temps, est entré en bourse et a une valeur aujourd'hui de 38 milliards de dollars. C'est l'un des jeux dont on parle le moins, l'un des plus gros jeux au monde dont on parle le moins, Roblox, en fait.
Ils auraient pu acheter 5 fois Bethesda, t'imagines ?
Bon, c'est pas de l'argent qu'ils ont en banque, hein, c'est la valeur de la boîte, mais quand même, c'est vrai, c'est une énorme, énorme boîte, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un truc un petit peu particulier. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Roblox, c'est un jeu auquel beaucoup d'enfants jouent, pas que, mais beaucoup d'enfants, et c'est vraiment un jeu dans lequel tu peux fabriquer tes propres jeux. Et il y a plein de choses. Il y a un système de monétisation à l'intérieur, etc., qui rémunère aussi les créateurs. Enfin bref, c'est un gros, gros, gros truc et ça vaut 38 milliards de dollars. Quoi d'autre ? Discord a généré 130 millions de dollars en 2020. Ils ont presque triplé leurs revenus par rapport à 2019, mais ils ne sont toujours pas dans le vert. Donc, ils font des gros investissements, on va dire. Mais c'est intéressant de voir qu'une grosse boîte que tout le monde connaît comme Discord, bon, tout le monde connaît Roblox aussi, mais ils ont eu 130 millions de revenus. Je ne sais pas combien de revenus à Roblox. Faudrait regarder ça, mais c'est un contraste intéressant, je trouve. Allez, quelques petits trucs à côté du jeu vidéo. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce de Dynasty Warriors, le film chinois ?
Oui.
Basé sur le jeu. Oui. Malheureusement, t'as pas trouvé ça marrant ?
Écoute, ouais, j'adore Dynasty Warriors. Je regarderai très probablement le film.
Ah bah voilà.
Attends, ça fait nanar.
Je pense que c'est le côté un peu propret, mais qui du coup colle au jeu en fait.
Bah ouais, c'est une bonne représentation du jeu, ce qui est peut-être pas une très bonne chose d'ailleurs dit comme ça, mais.
Oui, disons qu'effectivement, c'est très fidèle, les nuées d'ennemis, le côté « je mets un coup, t'as tous les mecs qui volent ». Là, pour le coup, c'est très fidèle au jeu. Après, comment ça va rendre en film ? Permets-moi de douter.
Et puis, ça fait très aussi film d'époque chinois. J'avoue que je ne suis pas un très grand spécialiste, mais c'est un jeu d'acteur un petit peu particulier, c'est un petit peu surjoué. Ça fait bizarre de voir les films d'époque de ce style, parce que ce n'est pas exactement la même culture. Et puis, c'est très surnaturel en même temps. Donc, ça fait peut-être trop de chocs culturels d'un coup, potentiellement. Mais ça a l'air bien foutu, quoi.
T'as une identité visuelle qui est vraiment, comme tu dis, ultra marché chinois. Enfin, en même temps, je pense que c'est avant tout à eux qui s'adressent. Donc, mais vu que c'est une licence qui s'est exportée en Occident, c'est vrai que forcément, nous, ça nous rend curieux, mais c'est pas du tout nos codes, que ce soit le jeu d'acteur où l'identité visuelle, c'est quand même particulier, quoi.
Écoute, ça sort en Chine le 30 avril, donc je suis sûr qu'on aura, on le récupérera quelque part sur un service de streaming à un moment, et on pourra voir ce que ça donne de nos propres yeux.
Je trouvais qu'il y avait limite un côté Uncanny Valley, en fait.
Je suis tout à fait d'accord. Ouais.
Disons que les effets spéciaux sont compétents pour un truc qui vient d'un jeu vidéo, mais tu vois bien que c'est des effets spéciaux, quoi. Quand même.
Bah, tu vois que ça a été tourné dans un studio de 30 mètres carrés sur fond vert, quoi. Enfin,
Oh, t'exagères. Non, c'est pas à ce point-là. L'écoutez pas. Allez voir le trailer. Il sera dans la newsletter. Allez voir le trailer et vous verrez que c'est pas si mauvais que ça. Il y a aussi le Super Nintendo World qui ouvre la semaine prochaine, ça y est, au Japon. Donc, on va avoir des rapports de ça, je suis sûr, à ne plus savoir qu'en faire. Et le dernier truc dont je voulais parler, avant qu'on parle un petit peu à Julien aussi de son expérience de développeur minimaliste, je voulais aussi évoquer ce truc dont tout le monde parle en ce moment, c'est les dice. Est-ce que vous savez ce que c'est que les dice ? Non, pardon, pas les dice, les pixels qui sont des dés. Vous avez entendu parler ?
Je triche parce que j'ai regardé le lien. Donc,
D'accord.
J'ai montré ça à des amis rôlistes qui ont bavé dessus.
En fait, c'est des dés électroniques. En ce sens que c'est des dés qui sont des dés de jeu de rôle classique, des dés 4, 6, 8, 20, etc. Qui sont électroniques dans le sens où ils sont d'une part connectés en Bluetooth avec ce que vous voulez et d'autre part ils ont des LED à l'intérieur sur chaque face qui fait qu'ils peuvent s'éclairer, faire le truc disco. Et c'est un projet Kickstarter qui a déjà levé genre 2 millions de dollars et ils sont à 28 jours de la fin, donc ils vont lever beaucoup plus. C'est hyper cool. Ça me fait un tout petit peu penser quand même... Est-ce qu'on a besoin de ce genre de truc électronique ? Pensons à la planète. Mais en même temps, j'en ai très envie aussi. Mais en même temps, je ne joue plus aux jeux de rôle. Ça serait vraiment juste pour les exposer. Ça fait très longtemps que je ne joue plus aux jeux de rôle. Mais c'est vraiment très cool. Ça fait effet disco. Et en plus, ils savent ce qu'ils ont donné comme dé. Donc, si tu connectes ça à un logiciel de jeux de rôle comme il y en a beaucoup en ce moment, et ben ça peut te dire dans le logiciel directement le truc que tu as eu en lançant ton dé. Ça te donne le chiffre, le résultat. Il y a plein de trucs très cool qu'on peut faire avec des dés de ce genre. Ils sont rechargeables évidemment par induction, donc il y a une petite boîte de transport qui les recharge en même temps. C'est le projet geek un petit peu ultime. C'est la connexion entre un petit peu jeu vidéo quand même, un petit peu, beaucoup jeux de rôle, et puis tech, c'est au nexus de tous les trucs de geek, donc évidemment, ça a un succès énorme. Je voulais le mentionner parce que c'est assez marrant. C'est le genre de truc qui me fait très, très envie, mais vraiment, je ne peux pas le justifier, d'autant plus que, oui, il y a quand même un détail que je devais mentionner. Est-ce que vous avez regardé combien coûte un set complet de 8D ?
200 euros, quelque chose comme ça.
Exactement, 200 boules. Donc, un dé, c'est 40 dollars et les 8, c'est 200.
Bah après, il faut regarder la techno qu'il y a dedans, c'est peut-être justifié. Mais je sais que moi, j'étais rôliste, ça fait bien longtemps que j'en fais plus. Par contre, je fais assez régulièrement du jeu de plateau. Mais enfin, je veux dire, quel autre ustensile tu pourrais sortir dans une soirée avec tes potes où tu pourrais qui en jette plus que ça, quoi, tu vois. Alors déjà tu viens avec tes propres dés et en plus ils brillent de toutes les couleurs quand tu les lances, quoi. C'est...
Ah mais je peux dire que si je faisais encore des jeux de rôle, et j'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse à faire des jeux de rôle, donc c'est vraiment un truc que j'ai dans le cœur. Si je les faisais encore, mais j'aurais acheté mais direct, il ouais. Y a pas aucune chance que, et non seulement je l'aurais acheté, mais on serait tous arrivés, si j'avais les sous quand j'étais jeune, mais on serait tous arrivés avec nos dés en faisant genre l'air qu'on est plus cool les uns que les autres. Après, pour retrouver lesquels sont acquis, attention, c'est pas évident, mais
chacun met une couleur différente.
Ouais, ils sont connectés, donc tu peux les allumer, etc.
Couleur c'est vrai, de LED. Sûr, ouais.
Ouais, t'as raison.
Et c'est vrai que c'est le genre de produit, tu vois, je me dis, je laisse passer le Kickstarter et j'espère qu'un jour ce sera dans le commerce à un prix un peu plus raisonnable, mais bon.
Ouais, à mon avis, c'est quand même, il y a une LED sur chaque face, il y a le truc de rechargement sans fil, il y a la connexion Bluetooth, il y a l'équilibrage du dé qui est quand même pas évident au niveau poids, etc. Donc,
en vrai, je pense que les 200 balles... Enfin, je pense qu'ils sont justifiés d'un point de vue purement, purement
techno
et design, etc.
Mais et puis surtout, c'est une phase de développement, donc oui, peut-être qu'ils seront moins chers un jour. Donc voilà, c'est les Pixels qui, entre parenthèses, m'ont volé le nom de mon émission de jeux vidéo anglophone, donc je suis très mécontent. Bon, avant de se quitter, j'aimerais quand même parler à Julien de son expérience donc de développeur. Ton jeu... Twaddle Paddle, sur lequel tu travailles depuis des années, qui est un casse-brique sur Android. Tu l'as publié il y a... Ça fait quoi ? Ça fait une semaine maintenant, à peu près ?
Ouais, ça doit faire deux semaines. Alors, c'est un mélange entre un casse-brique et un shoot'em up. C'est très, très orienté action, en fait.
Et ce qui m'a interpellé, c'est que... tu as lancé ton jeu un petit peu, presque par dépit, parce que tu avais marre de travailler dessus depuis toutes ces années. Et ce qui m'a interpellé, c'est à quel point tu t'es retrouvé... c'était un petit peu dans l'espace, personne ne vous entendra crier, quoi. C'était le vide total et tu as eu une expérience... En lisant tes tweets, j'avais l'impression que tu étais un peu déprimé par cette histoire.
Alors oui, j'étais probablement un peu déprimé au moment où j'ai publié ça. Et effectivement, c'est vraiment ça, c'est le calme absolu, le zéro, nada, rien du tout. J'ai été surpris par l'ampleur du silence. Alors, c'est pas la première fois que je publie un jeu. J'en avais déjà publié deux autres auparavant. Un qui était un casse-brique et un qui était un shoot'em up. Donc, celui-là est un peu l'union des deux. Mais ceux que j'ai publiés auparavant, c'était dans les débuts d'Android. C'était Android 1.6 et j'ai dû publier le premier en Android 2.1. Donc, c'était vraiment, vraiment au début. Et là, ça avait... À mon échelle, ça avait plutôt bien marché, en fait. Ici, c'est pas du tout la même expérience en faisant la même chose, qui n'est clairement pas la chose à faire, mais en ne faisant pas du tout de marketing.
Mais c'est intéressant parce que le jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, et à vrai dire, peu de chance que vous
tout
le connaissiez,
le
mais c'est un casse-brique, effectivement un mélange entre casse-brique et shoot'em up. C'est tout à fait un jeu qui aurait pu sortir développé par une petite équipe. Il a l'air, visuellement, il est très cool. Moi, je trouve qu'il a de quoi faire un minimum de buzz. Mais d'après ce que je comprends, t'as pas fait du tout de marketing. Donc, tu l'as juste mis au milieu de l'océan des jeux qui sortent tous les jours. Comment est-ce que tu espérais que ça fasse du bruit, en fait, sans aucune communication ?
Je sais pas si j'espérais vraiment que ça fasse du bruit. Je ne cherche pas vraiment à atteindre plein de gens, mais ce que j'espérais, c'était quand même avoir, comme tu dis, je trouve aussi, enfin moi, le jeu, je l'aime bien. Je trouve que graphiquement, il a quelque chose. Je trouve que niveau gameplay, il a quelque chose. Et j'espérais quand même trouver une certaine audience restreinte.
Mais comment ?
Et le problème, c'est...
Parce qu'il y a des milliers de jeux qui sortent tous les ans. Des milliers, ça veut dire que, je sais pas, disons qu'il y a 2000 jeux qui sortent dans l'année, c'est-à-dire que le jour où tu vas lancer le tien, il y en a 10 autres qui sortent, ou peut-être même un peu plus, un peu moins, mais c'est, comment tu espérais trouver une audience, en fait ? Simplement par le moteur de recherche sur le Google Play Store, il est que sur Android, sors-le sur iPhone, il y aura plus de gens qui le regarderont, je suis sûr, mais...
Alors, je veux bien sortir sur iPhone le jour où il m'aura rapporté assez pour payer la licence développeur Apple. Donc, je pense qu'il ne sortira jamais.
D'accord.
Elle coûte combien, du coup, cette licence ?
Mais sur desktop, pardon, SK, tu disais ?
Non, je disais, elle coûte combien, cette licence ?
Alors, je sais pas, mais là, le jeu a récolté 6-7 euros.
Ah oui, donc c'est pas
voilà.
Donc,
la licence, c'est une centaine d'euros hein, sur iOS. Enfin, voilà. Développeur Apple. Mais tu dis sur desktop ?
Oui, éventuellement, le sortir sur desktop, ça, pourquoi pas. En fait, pour la petite histoire, moi, quand je teste mon jeu, je le teste principalement sur mon ordinateur. Parce que ça va plus vite que de tester sur le téléphone. Donc ça, éventuellement, pourquoi pas. Et puis, moi, ça m'apporterait quelque chose de frais qui relancerait mon intérêt là-dedans.
Est-ce que...
Oui.
T'as travaillé combien de temps sur ce jeu? On disait c'est en plus de ton entre guillemets vrai boulot. Est-ce que c'est un... Oui, dis-moi.
Alors c'est complètement en plus de mon vrai boulot. Si tu permets, je vais avant répondre à ta première question à laquelle j'ai pas vraiment répondu. Comment j'espérais que ça allait donner quelque chose? Il y a deux choses, c'est que je fais quand même partie d'une communauté de développeurs qui est très petite, mais qui permet d'avoir quand même un peu de visibilité. Par exemple, Delver, ça vient de cette communauté-là. Slay the Spire, qui est probablement le plus connu, qui est fait avec ce framework-là aussi. Donc j'espérais avoir un petit peu vis-à-vis de ça. Et effectivement, quand les gens me voient poster des gifs dessus, ils disent « Ah, c'est cool, tu travailles encore là-dessus », donc eux le connaissent. Et d'un autre côté, ben, auprès des gens qui avaient joué à mes jeux auparavant. Le Shoot 'em Up, c'était à peu près 20-25 000 personnes, et le Casbrick, c'était à peu près 120 000 personnes.
D'accord.
Et ben, en fait, ben, pas du tout. Ouais. J'ai eu, allez, 15, 20 téléchargements de gens qui vraiment me connaissaient et savaient et étaient intéressés. Mais au-delà de ça, rien de plus, quoi.
Ah, moi, c'est un genre de jeu que, très rétro, mais que j'aime beaucoup, le Casbrick. C'est dommage qu'il soit que sur Android.
Ah ouais, mais moi aussi. À quoi tu attribues ça, en fait, la différence entre... Est-ce que c'est le changement? Quand est-ce que tu as sorti le dernier jeu qui avait eu quelques retours quand même?
Il y a quand même assez longtemps. Je pense que ça fait bien 4 ans, quelque chose D'accord. comme ça, 4-5 ans.
Donc, est-ce que c'est la différence de l'environnement, de l'industrie qui fait qu'aujourd'hui, les petits jeux ont moins de visibilité, ou tu n'as juste pas eu de chance? Tu l'as sorti à un moment où ce n'était pas le bon moment, ou est-ce que tu as une explication?
Alors, je pense que c'est pas qu'il n'y a pas de chance, parce que pour moi, c'est plutôt le fait que ça ait fonctionné qui aurait été un coup de chance. Ça, c'est plus la normale, et oui, effectivement,
c'est comme YouTube en fait, c'est exactement la même chose que YouTube, pardon.
Ouais, non, mais c'est un peu ça, et même chose que YouTube, si tu te lançais il y a 10 ans, bah, c'était pas pareil que si tu te lances maintenant. Voilà, il y a une autre question que j'ai oubliée,
que je te demandais: depuis combien de temps tu travailles dessus en fait?
Ah oui. Alors, mais ça, c'est un petit peu trompeur. Donc celui-ci, j'ai travaillé grosso modo 2 ans dessus. À mon échelle, donc, avec le travail, la famille à côté, etc., ça fait à peu près 1000-1500 heures. Mais il y a aussi l'expérience derrière que j'ai acquis dans les autres jeux qui a été mise à profit ici, notamment beaucoup pour les graphismes qui sont vraiment là, pour le coup, très particuliers, et qui est ma façon de faire, où en fait, tout est des particules, ce qui permet d'avoir des graphismes très dynamiques.
Effectivement, les graphismes sont... Tu sais, c'est vraiment intéressant que tu... Moi, je trouve que le jeu a un petit potentiel. Je ne vais pas te dire que je trouve que ça sera le jeu de l'année, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés par le jeu. C'est vraiment une affaire de marketing et de communication, là. Et tu dis, c'est pas ton truc, le marketing, tu n'as pas envie de faire ça. Mais ce que je note, c'est que... si tu fais pas de marketing, il y a des centaines de jeux qui sortent des milliers tous les ans. T'as aucune chance de te faire connaître, c'est juste pas possible, quoi.
Oui, non, mais clairement, là-dessus, t'as tout à fait raison. Et ce que je devrais faire, sans doute pour bien faire, c'est d'investir un petit peu là-dedans. Mais là, actuellement, c'est pas possible. Et je sais pas si j'ai envie de prendre ce risque-là, en fait, tout simplement.
Non, et puis c'est pas le même métier en plus. C'est pas le même métier, il faut connaître. Ouais, c'est compliqué.
J'ai payé pour avoir une jolie icône, et c'est la seule chose que j'ai fait dans le marketing.
Ouais, et elle est pas mal.
Ce qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est le bouche à oreille. Je sais pas si sur Twitch il y a beaucoup de streams de jeux mobiles qui sont faits, mais peut-être trouver des influenceurs qui peuvent, ou même des petits, hein, des petits.
Ouais, mais même, mais ça. Des gros. Mais comment tu fais? Il faut que tu essayes de les contacter.
Réseau,
il faut...
quand
tu es... c'est pas le même métier pour les connaître, les contacter, essayer. Et puis Dieu sait que ils reçoivent 12 000 contacts chaque jour. Même les petits sont un petit peu sollicités par des plus petits développeurs. C'est un vrai métier, quoi. Donc je comprends que ça te fasse ça soit pas le truc que tu as envie de faire, d'autant plus que tu fais ça par simple plaisir, quoi. Donc
Exactement, oui. Et voilà, ce serait me rajouter encore un boulot en plus. Et je préfère faire du développement, donc je suis passé au suivant.
D'accord. Donc tu as déjà lancé le développement du suivant.
Oui, mais en fait, ça me trottait dans la tête depuis longtemps, depuis facilement un an. J'ai eu pas mal de temps pour le mûrir. Et Twaddle Paddle, en fait, j'ai limite failli arrêter et je suis tombé sur un joueur absolument hardcore qui a passé à peu près autant de temps à y jouer que moi à le développer. Et c'est lui qui m'a beaucoup poussé à aller jusqu'au bout, en fait. Parce que déjà avant, je voyais bien, en fait, quand je postais un truc de ce que j'étais en train de développer, de celui d'après, j'avais beaucoup plus d'engagement que quand je postais des gifs de Twaddle Paddle où les gens s'en fichaient un petit peu. Et je pense que tu l'as présenté comme un casse-brique. Et c'est quelque chose qui dessert beaucoup le jeu ici, parce que quand tu le vois, tu vois un casse-brique. Je ne pense pas que tu vois ce qu'il y a derrière en plus.
D'accord. Eh bien, écoute, il est gratuit, le jeu ?
Alors, il est gratuit. Il y a pas mal de pubs. C'est un peu intrusif.
Ah, d'accord.
Voilà. Si jamais ça embête trop les gens, dites-le moi et je ferai peut-être une version sans pub.
Une version sans pub. Très bien. Écoute, tu sais, moi, ce que je dirais, c'est que tu sais qu'il ne va pas y avoir des millions de personnes qui vont l'acheter, enfin, qui vont le télécharger de toute façon, a priori. Donc, la pub te rapportera toujours moins que si tu le vends à je ne sais pas, 2 euros, 1,99 euros, ça te fait 1,99 € par personne qui l'achète, plutôt que 0,0004 centimes par personne qui le télécharge.
Qu'il avait rapporté 6 ou 7 euros, et en fait, 99% des revenus viennent de ce fan hardcore dont je parlais, qui à un moment s'amusait à cliquer sur la pub pour m'encourager, à tel point qu'il a bloqué mon compte Google Pub. Il s'est dit « Oulala, il y a un truc qui ne va pas là-bas, c'est louche
oh, !» bah, c'est gentil de sa part, en tout cas. D'accord.
Il a été super.
Twaddle Paddle, on mettra le lien dans les notes de l'émission, du coup, sur le Play Store. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Merci beaucoup, Julien. Et du coup, on attendra ton jeu suivant.
Avec plaisir.
On attendra ton jeu suivant qui a l'air d'animer un petit peu plus les foules. Tu me diras de quoi il s'agit hors ligne. Je suis curieux.
D'accord.
Super. Bah, merci à tous les deux. On arrive à la fin de cet épisode. Et comme d'habitude, je vais vous proposer de me dire où on peut vous retrouver sur Internet, à commencer par Escarina.
Alors, sur Internet, on peut me retrouver sur Twitter, @escarina_. On peut me retrouver aussi sur mon site d'actu, KissMyGeek, qui est un petit peu plus silencieux en ce moment parce qu'on est subitement, la moitié de l'équipe est devenue parent en un mois de temps. C'est même pas une blague. Tous nos enfants sont nés à quelques jours d'écart en septembre. Donc, du coup, on est un peu plus calme en ce moment. Et puis, on me retrouve bien sûr chez toi tous les deuxièmes jeudis du mois et dans un autre podcast qui lui aussi est un peu plus silencieux en ce moment. Super Gamerside, on est en train de voir comment on s'organise avec ces histoires de confinement pour se retrouver autour d'un micro. Voilà.
Très bien, merci Eska. Julien, écoute, on t'a donné la formule magique dans la chatroom pour mieux faire connaître ton jeu. Crix nous dit un casse-brique roguelite avec un arrière-goût de Dark Souls et paf, ça y est, c'est bon. C'est vendu. Il faut savoir comment tourner les choses.
Hein. Ouais, le problème, c'est que ça se vend souvent au visuel. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai.
Mais moi, je le trouve beau, ce jeu. Il est bien.
Moi aussi, je le trouve très beau. Bon. Mais quand tu le vois, tu vois un beau casse-brique. Ouais. Tu ne vois pas un beau casse-brique matiné de shoot 'em up avec un côté compétitif, etc.
Ouais, bah faut le dire. Regarde, sur la page du truc, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Paddlers
of
the World
Unite. C'est même pas moi qui rédige la page.
Break your way through levels of sheer speed and madness. Rock the house. The more you shake your phone, the more your balls accelerate. Clean a level in seconds. Oui, on n'apprend pas grand-chose, en fait, sur l'aspect shoot them up du jeu. Bon, écoute, on en reparlera. Entre-temps, où es-tu sur Internet, dis-moi ?
Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @particulitis. On mettra dans les notes de l'émission.
Tout à fait. Particularity sur Twitter. Merci à toi, Julien, d'avoir partagé un petit peu ton expérience de plus petite unité de développement possible, envisageable au monde. Merci à Eska d'avoir été avec nous également. Pour moi, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver sur notepatrick.com tout ce que je fais, c'est-à-dire, bien sûr, la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller regarder cette vidéo sur le moment 37 et quelques petits conseils et pourquoi les jeux vidéo de combat sont tellement particuliers, tellement motivants. C'est sur youtube.com/notepatrick. Vous avez aussi sur notepatrick.com l'abonnement à la newsletter, si vous le souhaitez. Et évidemment, un lien vers le Patreon, patreon.com/rdvjeux. Pour soutenir l'émission, vous pouvez soutenir l'émission si vous l'appréciez, si vous trouvez qu'on vous fait passer de bons moments, qu'on fait un travail intéressant, et ben vous pouvez décider de soutenir financièrement, de financer l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Et je remercie infiniment tous ceux qui le font et qui me permettent d'envisager avec sérénité la naissance de mon deuxième enfant, ce qui est quand même, ça a l'air de rien, mais c'est quand même un énorme, quelque chose d'absolument énorme que vous rendez possible grâce à votre soutien. Merci à vous tous et toutes. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.